الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي شفاء الإسلام. Nous avons lu ce soir le 22e juz. Et nous avons laissé donc la sourate Yassin pour demain. Et donc demain nous commencerons la sourate Yassin avec l'intégralité du 23e juz, le 23e sipara. Il y a tellement de leçons à retenir, tellement de versets qui sont marquants dans ce 22e juz. On retiendra un verset qui a été lu au début. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat » Le verset est assez long. De circonstances de révélation, Imam Ahmad, cité par Imam Ahmad ibn Hanbal, hadith de Umm Salama radiallahu anha, qui était l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle dit une fois au prophète sallallahu alayhi wa sallam: « Ya Rasulallah, ma lana la nudhkaru fil Qur'ani kama yudhkaru al-rijal » Elle va voir le prophète sallam dire au prophète d'Allah: pourquoi est-ce qu'Allah ta'ala ne cite pas les musulmans comme Allah ta'ala cite les musulmans? Il faut savoir, parenthèse, ça c'est pas le hadith, que lorsqu'Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhal ladina amanu, ça concerne chaque personne qui a la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, dans son cœur. Que ce soit les hommes ou les dames. Ya ayyuhal ladina amanu, ça englobe tout le monde. Et d'une manière générale, lorsqu'Allah ta'ala parle de al-mu'minun, ou mu'minin, muslimun, muslimin, quels que soient les termes de le Coran, ça englobe les messieurs et les dames. Il faut savoir également que le Coran précise bien qu'il y a une parfaite équité, une parfaite égalité entre l'homme, yarhamukallah, entre l'homme et la femme dans les rétributions, dans le jaza. Lorsqu'Allah ta'ala rétribue une personne pour une action, que ce soit une sadaqa, une zakat, lecture du Coran, dhikrullah, Allah ne différencie pas l'homme de la femme. Quand Allah ta'ala dit bien le Coran, annahu man amila minkum, annahu man amila salihan minkum min dhakarin ou untha wa huwa mu'min. Sans distinction, que ce soit un homme ou une femme qui accomplit une bonne action avec la foi, Allah Ta'ala accepte, agrée et Allah Ta'ala récompense sans distinguer les hommes et les femmes. Donc l'égalité totale, la parité, hein, ce terme qui est très cher aux féministes de nos jours, la parité elle existe dans la religion. Et on pourrait même dire que les dames sont beaucoup plus avantagées que les hommes en termes de rétribution. Parce qu'Allah Ta'ala prend en considération la faiblesse physique de la femme. Chose qui n'est pas prise en considération dans le monde du travail. On ne compare pas, subhanallah, le monde de l'au-delà avec le monde du dunya, mais dans le monde du dunya, hein, souvent, pour un même poste, la femme est moins rémunérée qu'un homme, très souvent, d'accord ? Et on ne prend pas compte, on ne tient pas compte du fait qu'elle est plus faible, ou elle a des faiblesses, elle a des états où elle ne peut pas être aussi productive qu'un homme. Mais pour Allah, Azza wa Jal, c'est différent. Allah Ta'ala rétribue les personnes en fonction de leurs efforts, de leur sincérité, mais également du contexte, s'il y a difficulté ou non de pratiquer. Et le prophète alayhi salatu wasalam a résumé les choses de manière très simple. Pour qu'une femme obtienne le paradis, il suffit qu'elle accomplisse ses 5 piliers et que son mari soit satisfait d'elle. Le prophète dit qu'une femme qui accomplit ce qu'Allah a rendu obligatoire, c'est-à-dire les piliers, et que son mari est satisfait d'elle, cette femme, si elle meurt, c'est une femme du paradis. Donc, la religion est beaucoup plus simplifiée. Il est demandé moins de choses à une femme qu'un homme. Ça, c'est la rahmat d'Allah pour les dames. Et là, ce hadith, Umme Salama, elle disait au Prophète salam, pourquoi est-ce qu'Allah ta'ala ne révèle pas un verset qui cite également les femmes de manière explicite? Et là, quelques temps après, elle dit que j'étais chez moi en train de me peigner les cheveux. D'accord? Et tout d'un coup, j'entends le prophète alayhi salatu wasalam rassembler les gens et monter sur le mimbar. Ce que le prophète salam faisait lorsqu'il recevait une révélation de la part d'Allah Azza wa Jal. Faja'altu sam'i 'inda al-jalil, je me suis mis à écouter et j'ai entendu faida huwa yaqulu 'inda al-mimbar, il disait près du mimbar, ya yuhannas inna Allah yaqul o musulmans, sachez qu'Allah Ta'ala a révélé, et là il a lu le verset innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Ce verset se distingue parce qu'il cite les qualités des croyants et puis il stipule juste après les mêmes qualités mais au féminin. Innal muslimina, les les musulmans, wal muslimat, et les musulmanes, wal mu'minina, les croyants, wal mu'minat, et les croyantes, avec précision que c'est pour les messieurs également pour les dames, wal qanitin, les obéissants, wal qanitat, les obéissantes, wal sadiqin, les personnes loyaux, wal sadiqat, pareil pour les dames, wal sabirin, wal sabirat, ceux qui sont endurants et celles qui sont endurantes, wal khashi'in wal khashi'at, les personnes qui ont la crainte d'Allah, que ce soit les messieurs ou que ce soit les dames, wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat, les personnes qui donnent beaucoup, la sadaqa, que ce soit les messieurs, que ce soit les dames, wal sa'imin wal sa'imat, les personnes qui jeûnent régulièrement beaucoup, hommes également les femmes, wal hafidhin furujahum wal hafidhat, les personnes qui protègent leur chasteté, que ce soit les messieurs ou les dames, et enfin wadhakirin Allah kathiran wadhakirat, ceux qui font beaucoup le dhikr d'Allah, que ce soit les hommes ou alors wadhakirat au féminin les dames, et la récompense a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima, Allah Ta'ala leur a réservé le pardon et une énorme récompense. Donc le prophète alayhi salatu wa salam a eu la révélation de la part d'Allah Azza wa Jalla, car Allah Ta'ala a révélé des versets parfois en fonction des circonstances. Et ce verset, bien sûr, existait déjà de l'Lawh Mahfouz, qui a été révélé durant le mois de Ramadan. Et Allah Ta'ala fait en sorte qu'il y a une personne qui provoque la révélation du verset, quelqu'un qui pose une question. Allah Ta'ala met dans le cœur de cette personne de poser la question pour qu'Allah Azza wa Jalla envoie le verset qui a déjà été décrété par Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalamullah, parole d'Allah pour la umma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis il y a différentes versions, ça c'est de l'imam Ahmad, dans différents livres d'imam Nasa'i et d'autres. Il dit que Umme Salama, ya Nabi Allah, ma li asma'ur rijal yudhkaruna fil Qur'an wa nisa la yudhkarna, prophète d'Allah, pourquoi est-ce qu'on entend toujours les messieurs, c'est-à-dire au masculin, hein, cités dans le Qur'an, et les femmes ne sont jamais citées explicitement, alors qu'on a expliqué que les femmes, hein, sont englobées dans ya ayyuhal ladina amanu et dans les termes masculins. Et là Allah Azza wa Jal a révélé ce verset, innal muslimina wal muslimat, le verset qu'on a lu. Et si on s'attendait un petit peu sur les différentes qualités, là on a les qualités des croyants, les personnes qui auront le pardon d'Allah et la récompense énorme par Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muslimin, al-muslimat, c'est clair. Al-mu'minin, al-mu'minat, c'est clair. Islam et iman, dans les ulama aqidah dit que ce sont des synonymes. Ce sont des synonymes quand un seul terme est cité. C'est un peu technique. Mais quand les deux termes sont cités, muslim et mu'min, là on voit la différence. Le mu'min, c'est un degré supérieur que le musulman. وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ الصَّادِقِينَ الصَّادِقَاتِ, qu'on a dit, ce sont les personnes qui sont loyaux, les personnes qui ont cru en Allah et les personnes qui disent la vérité. Et le prophète alayhi salatu wa salam a cité les qualités du mu'min qui dit toujours la vérité. Et le prophète a dit عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ, hein, dites toujours la vérité. فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِ, car la vérité ouvre les portes à toutes les bonnes actions. La vérité vous amène vers l'obéissance et les bonnes actions. Et sachez que وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, et que les bonnes actions amènent vers le paradis. Alors que وَإِيَّاكُمْ الْكَذِبِ, attention mensonge. فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ, le mensonge amène vers les péchés. وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, et les péchés mènent vers l'enfer. وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ, hein, tant qu'un homme, quand un musulman, il dit toujours la vérité, cette personne est inscrite auprès d'Allah comme étant un véridique. Alors que quand une personne ment, jusqu'à ce que ça devienne une habitude, Allah Ta'ala l'écrit parmi les menteurs. Et ce hadith-là, on l'avait développé dans les commentaires de Riyad al-Salihin, qu'on fait de manière périodique, donc, les lundis soirs. Autre qualité citée par Allah, Azza wa Jal, wassabirina wassabirat, les personnes qui font preuve de patience. Et nous savons que le hadith général, qu'au passage, dit, in as-sabr 'inda as-sadmati al-ula. Quand est-ce qu'on qualifie une personne de patient? C'est quand la personne est éprouvée par Allah et que dès les premiers moments de l'épreuve, la personne fait preuve de patience. Tandis qu'une personne qui a eu un problème, une maladie, une mauvaise nouvelle, ou quels que soient les problèmes, les calamités, et que la personne extériorise sa colère, sa détresse, sa tristesse, il va voir les gens, il va se plaindre, il va s'arracher les cheveux, il va se dire pourquoi moi, bref, tout ce cinéma, et ensuite la personne, elle se résout à accepter l'épreuve de la part d'Allah, et là elle décide de faire preuve de patience. C'est bien, maintenant elle est patiente, mais c'est pas ça le sabr. Le sabr du musulman, c'est dès les premiers moments. Ne pas extérioriser l'angoisse, la peur, etc. Immédiatement s'en remettre à Allah. وإياك نستعين. Nous recherchons toujours le refuge auprès d'Allah. Et quand il y a une difficulté, le mu'min, hein, la meilleure solution, c'est comme Fassam faisait, c'est de faire deux unités de prière, de rak'at, et de se retourner vers Allah, de demander droit à Allah, d'envoyer l'ouverture à Allah qui envoie les difficultés, c'est Allah qui envoie la facilité, qui envoie l'ouverture, al-nasr, qui envoie al-fath, l'ouverture après les difficultés. Une fois le prophète Ali salatu wassalam voit une dame en train de pleurer près d'une tombe, hadith très connu, et le prophète Ali salatu wassalam conseille cette femme de ne pas trop pleurer. Il essaie de réconcilier cette femme. Cette dame-là, donc, elle avait le dos retourné, elle n'avait pas vu que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam derrière son dos. Et elle a parlé d'une manière respectueuse, elle a dit, oui, mais tu sais pas ce qui m'arrive. Elle a dit, oui, mais tu sais pas qu'est-ce qui est en train de m'arriver. Il veut dire que oui, c'est facile de donner des conseils, mais tu sais pas quelle est la nature de mon problème, de ma détresse. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas répondu. Contrairement à nous, hein. Si un Fundi, un Moulissa, un Mufti, on dit quelque chose à quelqu'un qui vous répond de travers, elle dit, à moi Fundi, moi, ou pas connaît, à moi Alim, à moi Mufti, à moi l'apprendre, à moi Hafid al-Quran, bé adab, bé nasib. Hein, comme les Indiens aussi, ils disent, on n'a pas adab, on n'aura pas de chance d'autre vie, etc., etc. C'est-à-dire, d'une manière générale, oui, non. Ils disent comme ça, oui, non. D'accord? D'une manière générale, hein, quand quelqu'un a de la science, a une certaine place dans la société, on n'aime pas qu'on nous manque du respect. Et donc, la personne peut réagir au cas. Mais Al-Nabi, alayhi salam, c'est un modèle pour l'humanité, un modèle pour les alim, un modèle pour le da'i, un modèle pour le mu'min. Allahu Akbar, c'est le modèle vivant. Kana khuluquhu al-Qur'an, alayhi salam, hein, il voit que cette dame a répondu de manière respectueuse. Mais Al-Nabi, alayhi salam, sait que cette personne-là, elle est blessée. Cette personne-là, elle a un chagrin, son fils vient de mourir. Donc le prophète sallam n'a pas maudit que tu as manqué de respect au prophète d'Allah, la malédiction d'Allah soit sur toi. Là, abadan. Le prophète n'a rien dit. C'est comme quand l'épouse du prophète sallam avait jeté le plat. On avait expliqué ça, jeter le plat, tout casser, le prophète sallam n'a rien dit. C'est qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de son épouse à ce moment. Le sentiment de jalousie, il était possessif. Et le prophète sallam a fait preuve de patience, il est passé dessus, comme on dit. Et donc, une personne voit cette femme, il dit que, mais en garde, cette femme dit, je sais pas, c'était le prophète sallam qui était là. Hein, tu as pas honte, tu as parlé de la sorte, le prophète sallam. Et là, cette femme va présenter ses excuses au prophète sallam. Le prophète sallam, bien sûr, accepte les excuses. Mais le prophète sallam rappelle à cette femme que, innama sabr inda as-sadmatil oula. Sache que la patience, c'est dès les premiers moments de l'épreuve. Faut pas que la personne crie, hurle, pleure, et ensuite, quand tout est évacué, là, dit maintenant, je vais être patient. C'est comme si je suis en colère avec notre ami Fanaoula, je l'insulte, je le frappe, je le torture, et ensuite, je dis bon, on va pas garder ça sur le cœur, allez. C'est comme si que rien ne s'était passé, on fait maf. Hein, c'est trop facile, ça. On finit casse figure, on finit en daï, trois joyeux tété, et ensuite, on va dire, allez, on est de bons amis. Ceux qui contiennent leur colère, c'est dès les premiers moments aussi. Ils auraient pu évacuer la colère, mais ils le font pour Allah. Hein, ils font preuve de patience pour Allah. Donc pareil, le vrai mu'min patient, c'est dans les premiers moments de difficulté, la personne fait preuve de sabr. Wal-khashi'in wal-khashi'at, donc les personnes qui font preuve de dévotion, hein, qui ont la crainte d'Allah de leur cœur, wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat, ceux qui donnent, on va aller un petit peu plus vite, beaucoup dans le chemin d'Allah, et nous savons que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, hadith très connu également, parmi les sept catégories de personnes qui seront sous l'ombre du trône d'Allah Azza wa Jal le jour des comptes. On avait beaucoup insisté dans d'autres programmes sur Sha'abun Nasha'a fi ta'atillah, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah. Mais parmi les catégories, il y a également un homme, Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa'akhfaha. Une personne qui a donné une sadaqa, une aumône, et il a caché. Hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. À un tel point que, on pourrait dire, une métaphore, la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Hein. C'est une expression qu'on trouve également en français. Donc quelqu'un qui a donné une sadaqa, une main dans le chemin d'Allah, avec tellement de ikhlas, tellement de sincérité, que personne ne l'a vu. C'est pas comme si que je veux donner quelqu'un, la sadaqa à quelqu'un, je donne, elle dit tiens mon photo, mets sur Facebook. Voilà. Voilà, tiens mon photo, mets sur Twitter. Mets sur ton photo profil. Au moins le monde entier va connaître que t'es Bouglan, il est généreux. Il a donné tant de choses à des gens. Ça, Allah n'accepte pas ça. Allah veut que l'action soit sincère, mukhlis. Qu'on veut, wajh Allah. On recherche le contentement d'Allah, azza wa jal. Et cette sadaqa-là, elle est acceptée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Et vous savez que la meilleure période pour donner la sadaqa, on avait demandé au prophète, quelle est la meilleure sadaqa? Le prophète dit, c'est une sadaqa donnée dans le mois de Ramadan. Donc c'est le moment. Et on rappelle que quand on dit sadaqa, on n'est pas obligé de donner une montagne d'or. On n'est pas obligé de donner 2000, 3000 euros pour dire que j'ai donné la sadaqa. On donne en fonction de nos moyens. Et une sadaqa qui est appréciée par Allah, c'est quand quelqu'un donne alors qu'elle est en difficulté. يُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Facile si dans mon compte en banque, à la BNP j'ai 10 000, la BA j'ai 15 000, Crédit Agricole j'ai 25 000, et puis je dis bon, allez, on va donner 10 euros à ce petit mendiant. Facile, trop facile, 10 euros ça représente quoi? 10 euros je le gagne en 4 secondes, si je suis un grand richard, un grand commerçant, un homme d'affaires. Mais quelqu'un qui est au RMI, quelqu'un qui touche ou alors juste le SMIC, pour lui 10 euros c'est... 10 euros pour lui dans sa tête, c'est 10 jours le pain pour ses enfants. Wallahi l'azim. Pour une personne qui est un peu juste, quand on dit 10 euros, il sait que 10 jours, il peut donner du pain à ses enfants pour amener à l'école, pour goûter. Hein, il peut assurer le petit déjeuner de leurs enfants. Mais il voit quelqu'un en nécessité, quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, et que la personne, comme il dit, il met une main sur le cœur, il donne ses 10 euros, lillah. Alors ce sadaqa-là, ça vous fait décoller ça. Cette sadaqa-là, ça vous propulse. Ça, c'est une sadaqa qui est appréciée par Allah, parce que vous avez donné alors que vous-même, vous avez des difficultés. Vous-même, vous méritez la sadaqa, mais la personne fait un effort, donne. Donc la sadaqa, c'est pas le chiffre, c'est pas le nombre de zéros qu'il y a après le 1, après le 2. La sadaqa, c'est la quantité de ikhlas qu'il y a dans le cœur. On le donne vraiment pour Allah. Quelqu'un qui donne 2 euros pour la masjid en sortant un vendredi, ça peut avoir plus de valeur que quelqu'un qui fait un chèque de 20 000 euros, qui fait un virement et qu'on va afficher son nom. Voilà la personne généreuse. La sadaqa qui a le plus de valeur, c'est celle qui est faite avec ikhlas, avec sincérité. C'est pour ça que Allah Ta'ala dit que cette personne qui donne, c'est pas toutes les personnes qui donnent sadaqa qui sont sous le nom du trône d'Allah. Allah Ta'ala cite bien cette qualité de personne qui donne sadaqa avec une telle sincérité que la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Et le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé également, il y a tellement de vertus, on va pas citer les vertus de la sadaqa, il a rappelé également quelque chose qui nous concerne directement de le mois de Ramadan. وَالصَّدَقَةُ تُطْفِي الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِي الْمَاءُ أَنْ النَّارُ. La sadaqa éteint, efface les péchés comme le feu éteint, comme l'eau pardon éteint le feu. Comme l'eau éteint le feu, la métaphore est bien utilisée par le prophète sallam. Vous donnez la sadaqa, Allah Ta'ala pardonne les péchés. Et on est dans le mois de maghfira, de le mois où Allah pardonne. On demande istighfar, on demande tawbah. Personne peut dire que oui, mais j'ai fait des péchés énormes. J'ai demandé tawbah, mais est-ce qu'il faut faire encore quelque chose? Oui. Comment est-ce qu'on peut encore se rattraper? Comment on peut être sûr, on peut valider ce tawbah? Demandez, faites avec les conditions du tawbah, tout nasuha, bien sûr. Mais en plus, on donne la sadaqa, sachant que la sadaqa a cette qualité, cette vertu d'effacer, d'annuler les péchés. Et ensuite, un verset qui nous concerne là en ce moment, وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ, les personnes qui jeûnent, et les hommes comme les dames. Et on va dire, mais quel jeûne? Jeûne de Ramadan? Tout le monde jeûne au mois de Ramadan. Mais il y a, mashallah, on apprend toujours Allahu Akbar. Sa'ir ibn Jubair, radiallahu anhu, il fait le tafsir de صائمين والصائمات. Il dit que من صام رمضان, déjà dites amin, vous allez faire ça, vous allez mettre en pratique, dites amin inshallah, on va l'annoncer. C'est quoi? Les personnes qui sont considérées par Allah comme les jeûneurs et les femmes qui font le jeûne. من صام رمضان وثلاثة أيام من كل شهر دخل في قوله والصائمين والصائمات. Saïd ibn Jubair, il dit que la personne qui jeûne le Ramadan et qui en plus du Ramadan tous les mois jeûne 3 jours. Vous savez les Iyamul Bayt, les 3 jours, il est masnoun, il est sunnah de jeûner. Il dit inshallah, si une personne fait bien son Ramadan tous les ans et que tous les mois la personne jeûne les 3 jours, Allah Ta'ala le considérera comme les personnes qui font partie du verset wassaimin wassaiman et qui auront donc la récompense finale. Donc il faut qu'on fasse le niya. Ce serait l'idéal qu'une personne fasse l'intention que après ce mois de Ramadan, les ayyamul bayt, je fais les 3 jours de jeûne tous les mois, même si c'est un dimanche. D'accord? Et puis Allah Akbar, quelqu'un qui peut passer à une étape supérieure encore, c'est de jeûner quand? Tous les lundis et les jeudis, les jours où les actions sont présentées devant Allah Azza wa Jal. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même faisait le jeûne en ces jours. Si une personne tous les lundis, jeudis, jeûne, ça lui fait combien de jeûnes par mois? 4 semaines, 4 fois 2, 8 jeûnes nafil par mois. Sachant que les actions sont multipliées par 10, al-hasanatu bi'ashri amthaliha, imaginez le nombre de récompenses, le nombre, ça équivaut à combien de jeûnes. Inch'Allah, avec autant de jeûnes de carême nafil, on a espoir qu'Allah Ta'ala nous inscrit parmi wassa'imin wassa'iman, et on a grand espoir qu'Allah nous fasse entrer dans le paradis, dans la porte de Ar-Rayyan, cette porte qui est réservée aux aux jeûneurs, les personnes qui étaient attachées à cette action. Et puis, on terminera avec l'autre qualité qui est citée, وَالْحَافِذِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِذَاتِ, les personnes qui font preuve de chasteté, qui se préservent. Et Ibn Kathir, rahimahullah, a dit que munasaba, il est, Allah Ta'ala cite les personnes qui se protègent immédiatement après le jeûne, parce qu'il y a un rapport direct entre le jeûne et le fait de se préserver. Quand le prophète, ça veut dire hadith très connu, qu'on cite lorsqu'il y a des mariages, Inch'Allah, le prochain mariage pour Ramadan, ce sera notre imam Oussama, Inch'Allah, il se mariera après le Eid, dites Amin. Il n'a pas encore trouvé, mais Inch'Allah, ça viendra. Allah au chemin, Inch'Allah. Il ne faut pas trop chercher, c'est muqaddar. Allah va envoyer au moment voulu, Inch'Allah. Ouazama dit, Ya ma'shara al-shabab, oh les jeunes, manistata'in, c'est un hadith très connu, celui qui peut, qui se marie. Maintenant, si quelqu'un, parce que, fa'innahu araddu lil-basar, quand quelqu'un se marie, il peut protéger son regard. Et jusqu'à la fin du hadith, le prophète dit, mais celui qui ne peut pas se marier, quelles que soient les raisons, fa'alihi bis-sawm, le prophète m'a conseillé de jeûner, parce que le jeûne, ça apaise les pulsions, ça réduit les tentations. Sachant que Shaitan circule comme le sang dans le corps, en jeûnant, on sait également que scientifiquement, le sang circule moins vite, bref, mais ça, c'est pas les thèses scientifiques qu'on voulait. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, nous rappelle qu'avec le jeûne, la personne peut se préserver. Et surtout, dans un contexte comme l'île de la Réunion, on a besoin de se préserver. Si après, un samedi après-midi, déjà le mercredi c'est chaud, si un samedi après-midi vous faites le malheur de rester après salat al-asr 20 minutes, ne faites pas ça, hein, Marshal Leclerc parlait avec des amis, vous envoyez de toutes les couleurs, des belles et des pas mûres. Donc, contrôler son regard, c'est quelque chose d'énorme. Se préserver contre le zina, c'est vraiment le combat de ce siècle. Avec toute l'émancipation de la femme, elle est plus qu'émancipée, elle est raide. Wallah musta'an, avec l'éducation sexuelle qui commence déjà en 5e, en 4e, où on éduque nos enfants, on les fait comprendre que à partir de 15 ans, on doit avoir une sexualité déjà épanouie. Épanouie. C'est-à-dire qu'à partir de 15 ans, il est normal d'avoir une vie sexuelle. C'est ce qu'on apprend aux enfants depuis la 4e, avec distribution de préservatifs dans les cantines. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On était au lycée, on a eu le bac en 97. D'accord ? À cette époque, déjà, au collège, c'est des choses qui se passaient. Donc, nos enfants grandissent dans ce contexte. On est en train de normaliser l'adultère. Et c'est un des petits signes de Qiyama qu'à la fin des temps, l'adultère sera banalisé. Dites une personne, utilisez le mot adultère. Il dit, c'est quoi ce mot ? C'est du vieux français. L'adultère, c'est plus un terme utilisé. On va dire oui, ces deux personnes se fréquentent, ils vivent dans l'adultère. Non, de le concubinage, trompé de terme. De le terme moderne depuis l'an 2000 et quelques années avant, on parle de concubinage, on ne parle pas d'adultère. Le terme adultère, le terme zina n'existe plus dans le langage courant parce que c'est devenu quelque chose de courant, même de souhaitable. Si quelqu'un n'a pas, si un jeune jusqu'à 17, 18, 19 ans n'a pas de copine, commence à se douter. Peut-être qu'il a des pulsions étranges, ou là peut-être qu'il a des problèmes psychologiques. Il faudrait peut-être consulter. Il faudrait peut-être voir ce qu'il n'a pas une frustration de sa jeunesse qui fait qu'il n'a pas confiance en lui. D'accord ? Nous sommes là pour contrer ses pensées négatives. Parce que nous savons que lorsqu'un mu'min fait le zina, son iman quitte son cœur. Ça, c'est grave, ça. C'est extrêmement grave. Quand quelqu'un fait l'adultère, sa foi, le iman ne peut pas rester dans un corps qui accomplit l'adultère. Le iman quitte le corps de la personne jusqu'à ce que cette personne ait terminé cet acte odieux et détestable auprès d'Allah Azza wa Jalla. Donc, pour se protéger, c'est vrai qu'on vit dans un contexte où ce n'est pas facile de se protéger, mais une des solutions, c'est contrôler le regard. Ça, c'est la clé. Parce que le prophète dit le regard, c'est sahmun mashum min suhum iblis min suhum shaitan. C'est une flèche masmoum, pardon, une flèche empoisonnée parmi les flèches de shaitan. Tout commence par le regard. Comment est-ce qu'on va tomber, on dit amoureux, c'est plus des termes aussi, d'une femme, c'est tout d'abord regard. Si quelqu'un contrôle son regard, ben inchallah la personne se protège, se préserve, et la personne montre à Allah Azza wa Jal qu'il a le désir de se protéger. Et puis le jeûne. Le fait de faire le carême, de jeûner, ça apaise les pulsions, ça empêche de shaitan d'avoir une emprise sur nous. Et enfin, wa dhakirin Allah kathiran wa dhakirat, bien sûr, ceux qui font le dhikrullah abondamment. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, on dit un hadith pour Le jeune marié, Naoulat, il y a un jeune marié, trois mois de mariage, mashallah. إذا أيقظ الرجل امرأته من الليل, lorsqu'un mari réveille sa femme la nuit pour faire la prière de la nuit, tahajjud, فصلّيا ركعتين, et que tous les deux il prie deux unités de prière, كتب تلك الليلة من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات, voilà la nuit où ils se sont réveillés, Allah Ta'ala les inscrit parmi les ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Mettre en pratique dès maintenant, inshallah, dès ce soir, inshallah, je pense que c'est déjà fait. Et le prophète a dit: ma amila adami amalan qat anjalahu min adabillah min dhikrillah. La meilleure des choses qui protège un être humain de la punition d'Allah, c'est le dhikrullah. Mais là, bien sûr, on va terminer, on me rappelle à chaque fois quand on fait une action, on le fait de manière réfléchie. Le tasbih, le takbir, le tahmid doivent avoir un sens. Quand quelqu'un dit Allahu Akbar, il doit comprendre le sens de Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Il doit bien intégrer que quand je dis Allahu Akbar, je fais l'éloge, je fais les louanges de mon Seigneur qui est le plus grand, le plus fort. Et là, il se rappelle le hadith qu'on avait cité, la bague qui est jetée dans un terrain vague, le premier ciel par rapport au second, etc., etc. Il imagine la grandeur d'Allah qui est inimaginable, inconcevable pour une créature. Quand je dis Allahu Akbar, je dois ressentir la grandeur d'Allah. Quand je dis Alhamdulillah, je remercie Allah, toutes les louanges reviennent à Allah, et je pense en même temps à tout ce qu'Allah nous a accordé comme bienfait, la foi, la santé, la possibilité de venir à la mosquée, de marcher sur ses pieds, la possibilité de tous les bienfaits qu'Allah nous a accordés, il soit Alhamdulillah, sort comme un vrai remerciement de notre cœur. Il faut que les adhkars aient un poids. Et on rappelle ce qu'on aime dire à chaque fois, vous voulez dire qu'on répète, mais il faut qu'on comprenne, on intègre ça. Les ulama disent que même quand quelqu'un dit Astaghfirullah, la personne doit bien comprendre que quand je dis Astaghfirullah, je dois penser à mes péchés, à mes erreurs, et je m'en remets à Allah, le seul qui connaît mes péchés, le seul qui sait ce que je fais, parfois dans la nuit sans que personne ne me voie, et là je demande Tawba ou Allah pour ses péchés. Il a dit Waïla, les ulama disent que Waïla, hada l'istighfar, ihtaj ila istighfar. Il dit, si quelqu'un dit astaghfirullah, 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 soit astaghfirullah même, c'est un manque de respect. Hada l'istighfar, yahtaj ila istighfar. Il dit, soit astaghfirullah, c'est un tel manque de respect qu'il faut demander tawba pour ce istighfar-là. Quand quelqu'un fait un tasbih, il fait étoiler, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Comme très souvent, on voit des jeunes, en Arabie, on voit ça, il y a des jeunes, le tasbih est devenu un gadget. Ils ont des tasbihs qui coûtent très cher. 100, 200, 300 riyals, c'est fait en pierre. Bref, d'accord, c'est devenu un ornement. Hein, ils prennent ça, ils font tourner, c'est très beau, ça fait un style, comme on dit, d'accord. Mais c'est pas ça le dhikrullah. Le dhikrullah, c'est vraiment la pensée d'Allah. C'est pas juste faire tourner un tasbih, encore le tasbih, il y a kalam al-ulama dessus. Vraiment, quand on fait le dhikrullah avec sincérité, on pense à Allah subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter à là, inshallah. Et d'une manière générale, le dhikrullah intervient dans toutes les actions. On avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, au prophète d'Allah, فَأَيُّ صَائِمِينَ أَكْثَرُ أَجْرًا, au prophète d'Allah, hadith de l'imam Ahmad, quel jeûneur a le plus de récompenses? Ça, c'est un hadith qui nous concerne directement. أَيُّ صَائِمِينَ أَكْثَرُ أَجْرًا قَالَ أَكْثَرُهُمْ لِلَّهِ ذِكْرًا, celui qui fait le plus de dhikrullah. Ça, c'est très important. Le jeûneur qui fait beaucoup plus de dhikrullah, c'est le jeûneur qui aura plus de récompenses. Et Allah Ta'ala les a accordé. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah Ta'ala aura accordé le pardon et une énorme récompense. Bien sûr, c'est le paradis. Il y a un petit verset qu'on peut pas passer dessus. Lorsqu'Allah Ta'ala dit wa kana bil mu'minina rahima. Et Allah Ta'ala est miséricordieux envers les croyants. Hein, le prophète alayhi salat wa salam avait vu une fois une femme avec un petit bébé. Il le prenait contre elle. Il allaitait son petit bébé. Vraiment une mère qui aime son enfant. Le prophète a regardé cette femme, il a dit au sahaba, atarawna hadhihi tulqa waladaha fi an-nar. Pensez-vous que cette femme, cette maman, si elle le pouvait, wa hiya taqdiru ala dhalik, est-ce qu'elle aurait jeté son enfant dans le feu? Pensez-vous que ce cas de figure est possible? Qalu la, on ne dit jamais au prophète d'Allah. Le prophète dit, fa wallahi Allahu arhamu bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Je jure par Allah, je fais le qasam par Allah qu'Allah Ta'ala a plus de raham, de pitié pour ses serviteurs que cette femme pour son bébé. Autant pour vous, c'est inconcevable qu'une maman prenne son bébé et jette dans le feu. Allah Ta'ala n'a pas envie de jeter un serviteur dans le feu. Allah Ta'ala a plus d'amour, de pitié, d'affection pour un serviteur, pour un croyant, qu'une maman pour son propre bébé. Quand on voit que notre Seigneur, il est miséricordieux de la sorte, Allahu Akbar, on doit rechercher sa miséricorde. Il est tellement facile d'obtenir la pitié et la miséricorde d'Allah. Il suffit de lever les mains, il suffit de faire un effort, de faire l'intention de se rapprocher d'Allah. Donc nous allons profiter au maximum de la dernière décade, hein, qui va commencer bientôt, pour essayer d'obtenir le contentement d'Allah, l'agrément d'Allah, le pardon d'Allah durant ce mois de Ramadan, et surtout faire l'intention ferme, mes chers frères, à partir de ce mois, de changer notre vie. Il ne faut pas qu'à partir de Shawwal, à partir de Eid, nous revenions vers nos mauvaises habitudes. On avait expliqué au Latani il y a quelques jours, on le répétera par la suite ici, les deux semaines qui vont suivre le Eid, ce sera une épreuve pour le croyant. Parce que Shaitan sera de retour, Shaitan va essayer de rattraper le temps perdu avec les waswasa, les insufflations, il va essayer de nous ramener vers les péchés. Ceux qui buvaient et qui se sont arrêtés de boire, Shaitan va essayer de les ramener vers la boisson en les persuadant que tu as fait un bel effort. Maintenant c'est bon, attends Ramadan 2013. Ceux qui faisaient un peu trop la fête le samedi soir, Shaitan va essayer de les persuader que maintenant il faut recommencer. Ceux qui, etc., etc. Donc Shaitan va essayer de faire un maximum d'efforts sur nous. Et il faut bien demander à Allah de l'aide, qu'Allah nous aide à lutter. Ça va être une guerre acharnée contre Shaitan après le Eid. Mais si on tient ferme, Allah nous donnera istiqam. On était un petit peu long, je vous demande de m'excuser, mais bientôt, dans quelques jours, si on ne fera pas programme, parce qu'il y aura le Khatm al-Qur'an au Mufia, donc on ira là-bas. Donc ça c'est deux programmes pour le programme de lundi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursaleen, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alameen. Nous avons